Si vous pouvez vous présenter, c'est ce que vous voulez.
Excusez-moi. Mon nom est Günther Pomerenke, je suis allemand. Et je voulais m'adresser plus particulièrement à M. Klein, qui a parlé des politiques, c'est-à-dire d'une certaine manière. Et moi, je suis dans la même trajectoire. Et pour expliquer ce que je vais faire, je dois parler un peu de moi. Excusez-moi, mais ça va être très bref. J'étais donc à Hambourg quand la ville a été détruite par des bombes de phosphore et que après mon père était dans un camp parce qu'il était antifasciste et j'ai assisté donc à la destruction de l'Allemagne et aussi à la plus grande catastrophe de l'humanité qui était l'extermination des êtres humains par des méthodes industrielles. Et donc j'étais là comme jeune homme et toute la première génération allemande après la guerre, j'avais plus de patrie, j'avais plus de famille, j'avais plus de religion. Et donc, il fallait se donner une raison de vivre et de voir le futur. Et je ne suis pas arrivé. Et j'ai quitté l'Allemagne. Ça fait 40 ans que je suis en Allemagne. J'ai vécu en Angleterre, en Espagne, j'étais aux États-Unis. Et un homme m'a sauvé littéralement la vie. C'est un philosophe français, c'est Jean-Paul Sartre. Et j'ai donc réussi d'aller de la vie, de la mort vers la vie. Et si on peut considérer ça comme un progrès, j'ai fait un progrès dans ma trajectoire personnelle. Et je sens actuellement, dans la crise que nous vivons actuellement, que cette force qui vient plutôt de la psychique, c'est-à-dire de dire je veux vivre, j'ai vraiment envie de vivre, et sans les religions, sans Dieu, on est là, on va mourir, mais avant de mourir, on va faire quelque chose. Donc je crois que cette force élémentaire, c'est ça ce qui manque actuellement dans la société. Et si nous avions vraiment une conviction comme moi, on saurait mieux gérer nos problèmes et on serait aussi beaucoup plus attentif aux autres et on aurait une force. Et je vous admire, M. Klein, vous aurez une force incroyable dans votre discours et dans votre pensée. C'est vraiment... J'étais jamais devant un homme comme vous. Mais je crois que c'est ça ce qui manque. Et effectivement, c'est une question politique. Et je termine avec une petite anecdote très drôle. J'étais donc à la fête de l'humanité il y a 2 semaines, où je vais toujours. Et j'assistais à la présentation d'un livre d'un monsieur Paul Bocara, un grand économiste communiste, très mécanique, très orthodoxe, etc. Donc il a expliqué un peu la crise, pourquoi, etc., cette crise actuellement financière. Et à la fin, quand on lui a demandé, mais est-ce que vous ne croyez pas que le capital est totalement bidon, il faut absolument oublier le capitalisme, il faut s'attaquer au peuple allemand, américain, il a dit, non, la question c'est, maintenant, moi, après toutes mes guerres que j'ai perdues, je sais une chose, avant de chercher l'argent et le capital, il faut savoir choisir sa vie. Savoir quel type de vie nous voulons vivre. Et ensuite, on va chercher l'argent. Et ensuite, on va mettre autour de ça les structures politiques.
Et merci pour votre intervention. Voilà. Je ne vois pas très bien quelle est votre question ni quel est le rapport entre ce que vous dites et le sujet de notre conférence qui traite de la science, en réalité. Non, c'est la science et le futur de l'homme. Non, je vous en prie, je crois que vous avez eu vraiment largement le temps de vous exprimer. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Pas d'autres questions? Si. Si vous pouviez rester dans le débat de ce soir, ça serait un grand service à nous rendre.
Tant que l'homme n'aura pas vaincu la mort, moi je me pose la question, s'il existe, je ne suis pas aussi optimiste que M. Pic. Je ne crois pas que nous sommes des singes, je crois que nous n'existons pas encore.
Quelle est votre question?
Moi, ma question, elle est plutôt sur le statut de la pensée, en fait, par rapport à la science. Est-ce que la science, elle n'a pas un peu des problèmes aujourd'hui, parce qu'elle est un peu trop arrogante? Parce que justement, elle croit qu'il y a qu'elle qui existe parce qu'elle parle des choses, justement, les choses qui maintenant nous hein, ça, ça a été bien dit, ces choses que nous avons inventées et que nous maîtrisons, en fait, enfin, que nous pourrions maîtriser. Alors, je crois que ça vient d'un statut de la pensée qu'on n'a pas bien compris, quoi, en fait, que l'humanité n'a pas bien compris. Parce que, d'une part, elle croit qu'elle existe, secundo, elle croit qu'elle pense. Et moi, je pose la question, est-ce que nous existons? Est-ce que nous pensons tant que nous n'avons pas vaincu la mort?
Qui veut répondre?
C'est pour un philosophe, ça.
Nous en avons deux. Alors,
si la condition pour penser, c'est d'avoir vaincu la mort, ou même pour exister, on n'est pas prêt d'y arriver. Et je pense qu'au contraire, la mort est une perspective qui nous définit de cette façon. En tout cas, la conscience de cette perspective nous défie. Mais le monsieur qui a parlé de son expérience a dit des choses qui quand même touchent le débat. Par exemple, le problème de la technoscience, c'est-à-dire cette imbrication entre science et technologie, très forte aujourd'hui, au point qu'on peut se demander s'il existe une science qui ne soit pas connectée d'une façon ou d'une autre à cette technoscience généralisée qui se répand partout et qui n'est pilotée par personne. Et on peut se demander si le projet scientifique, disons tel que formulé par Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'était dans un but extérieur à cette maîtrise. Le but, c'était le bonheur et la liberté, c'est-à-dire la maîtrise de la nature avait pour but autre chose qu'elle-même. Et on a l'impression que petit à petit, et Heidegger, mais je ne veux pas parler à Heidegger devant M. Hautoy, parce qu'il va sûrement me corriger, mais il analyse ça en faisant intervenir Nietzsche, etc., la volonté de puissance, et montre comment, finalement, cette maîtrise est devenue à elle-même sa propre finalité. Et aujourd'hui, les entreprises sont sommées d'innover. Elles sont sommées non pas par une voie supérieure, mais tout simplement parce que si elles ne le font pas, elles disparaissent. Et donc, par exemple, un fabricant de téléphone portable, s'il ne sort pas dans les 6 mois qui viennent un modèle radicalement nouveau par rapport à celui-ci, il ferme. Et donc, l'innovation n'est plus quelque chose qui nous tire vers un futur que nous aurions choisi et vers lequel nous voudrions aller. C'est plutôt une force qui nous oblige à constamment avancer, un peu comme un cycliste qui tombe dès qu'il cesse de pédaler. Et donc voilà, c'est le moteur de l'innovation, c'est plus un projet d'avenir, c'est si tu n'innoves plus, tu meurs. Et c'est évidemment moins excitant. Et là, il y a sans doute des pulsions de mort qui sont en action dans cette histoire. Mais je pense que on demande aux scientifiques un peu trop de choses. Alors même s'ils sont arrogants, je trouve qu'on leur demande toujours. On leur demande de refinaliser le projet technoscientifique. C'est-à-dire, on demande aux scientifiques de remplir le vide laissé par la disparition des philosophies de l'histoire. Autrement dit, on demande aux scientifiques de faire un projet de société, parce qu'il n'y en a plus par ailleurs, alors que l'idéal, si le mot a un sens ici, ce serait de définir un projet de société et de voir comment la science, avec ses moyens, peut y contribuer.
Enfin, les perspectives dont vous parliez en matière de nanosciences, nanotechnologie, etc., sont justement de cet ordre de puissance.
Absolument. Mais il faut voir qu'il y a un marché pour ça, il y a une demande pour ça. Pour moi, il n'y a pas de différence énorme, ontologique, entre ce que promettent les nanosciences. Et quand on parle des nanosciences, il ne faut pas simplement parler de la post-humanité ou de la transhumanité. Il faut aussi parler des malades, des handicapés, qui en attendent beaucoup. C'est la même chose que la chirurgie esthétique. Il s'agit d'améliorer l'apparence, ça c'est la chirurgie esthétique, ou bien les performances de l'être humain. Et tout le monde veut ça.
Non, mais vous savez bien que c'est peut-être dans la même filiation, mais ça n'a pas du tout le même impact final sur ce que la société pourra être lorsqu'elle sera façonnée par les conséquences des nanosciences ou des nanotechnologies. Pascal Pic.
La question c'est comment établir des procédures de décision qui définissent la part qui revient à la discussion générale, la part qui revient à l'avis des experts, la part qui revient à la décision politique. On n'a jamais réussi à mettre sur pied les modalités de la décision qui aboutiraient à des décisions qui, même lorsqu'elles sont contraires à ce que nous attendons, personnellement, sont acceptées parce qu'elles ont été décidées selon cette procédure.
J'ai
Gilbert Autoir.
Oui, je ne vois pas très bien, madame, mais je ne pourrais pas répondre à ce que vous avez dit, parce que je pense qu'il y a des présuppositions qui sont les vôtres, que je ne connais pas, et aussi que vous utilisez certains termes avec certains concepts d'une manière qui vous est propre. Donc il faudrait, je crois, pour pouvoir discuter, avoir une conversation assez longue, essayer d'expliciter un certain nombre de choses. Donc je ne peux pas réagir de façon sensée, disons, à votre intervention. En ce qui concerne Heidegger, que vous avez évoqué, et qui donne effectivement une image de la science, comme à travers Nietzsche, etc. Enfin, il y a toute une succession qui commence à Platon, d'ailleurs, Platon, Descartes, Nietzsche, etc., et qui est une vision finalement nihiliste de la science, et qui a une volonté de puissance qui ne vise que l'augmentation de sa propre puissance. Je crois quand même, enfin moi je suis pas un scientifique ni un technicien, mais je crois que cette mégalomanie au fond est quand même assez différente de l'attitude de la plupart des scientifiques qui sont des chercheurs modestes en général, ou des techniciens qui sont également des individus modestes qui essayent dans des conditions souvent difficiles de faire leur travail, de trouver des solutions ou de découvrir des choses nouvelles. En ce qui concerne l'innovation, je suis assez d'accord avec vous. Nous sommes passés d'une philosophie des sciences qui était recherche et développement à des programmes cadres, d'ailleurs, qui sont ceux de l'Europe, qui sont recherche et innovation, c'est-à-dire que la science ne doit plus servir qu'à résoudre des problèmes d'entreprise ou des problèmes de société, donc en fait des problèmes de rentabilité, en grande partie, et aussi résoudre les problèmes qui sont engendrés par cette recherche de la rentabilité. Il n'y a plus guère de place, mais enfin on l'a assez dit, vous l'avez assez déploré, pour la recherche fondamentale, en particulier le chercheur. Parce que le chercheur scientifique libre, enfin, tel que moi je le vois, est un individu qui est bien sûr dans la société, mais il est aussi d'une certaine manière en dehors de la société. Parce que s'il est uniquement dans la société, eh bien à ce moment-là, on est effectivement dans une problématique de recherche et innovation, c'est-à-dire qu'on n'essaye plus que de trouver des choses qui sont utiles directement à la société telle qu'elle est. Tandis que celui qui découvre vraiment qui est un réel découvreur, n'est-ce pas, qui révolutionne, l'état, plus ou moins l'état des sciences et des techniques actuelles, celui-là introduit des nouveautés dans la société qui fait que la société doit évoluer. Donc il est à la fois dedans et dehors. La révolution copernicienne, la révolution darwinienne a un impact énorme sur la société. Je crois que nous n'avons pas du tout encore intégré dans nos mentalités, en particulier la révolution darwinienne. Ça prendra encore énormément de temps, je pense. C'est une blessure narcissique pour l'humanité que l'humanité n'a absolument pas encore intégrée. Et je voudrais, toujours dans ce cadre, aussi évoquer Pascal, et en pensant bien sûr à la temporalité cosmologique et biologique. Pascal disait « ces espaces infinis m'effrayent ». Maintenant, on peut ajouter, je crois, cette temporalité infinie, ou ce temps infini, ou en tout cas illimité ou indéfini, nous effraye. Et il y a certainement un problème par rapport au futur qui, jadis, était anticipé jusqu'à sa fin. Soit le temps était nié au profit de l'éternité, soit le temps était une histoire religieuse ou séculière, comme j'ai rapidement expliqué, qui avait une fin pas tellement lointaine, donc tout cela avait un sens. Maintenant, nous semblons, suite au développement des sciences, bien entendu, et des techniques, plongés dans une temporalité illimitée, qui est un futur à la fois très ouvert et opaque, c'est-à-dire qu'on ne peut plus anticiper, comme je l'ai dit, ni par la raison, ni par l'imagination de façon convaincante, en tout cas universelle, un futur dont on ne parvient plus, ou une histoire future qu'on ne parvient plus à symboliser en quelque sorte, donc intégrer, parce que symboliser ça veut dire donner sens, et auquel en même temps on a de plus en plus, comme vous l'avez dit, un rapport de production, un rapport opératoire. Donc nous avons un rapport de production à un futur qui, en même temps, du point de vue symbolique, nous échappe, nous est opaque, et d'où, évidemment, notre malaise, le manque de repères et le fait qu'il faut effectivement être très prudent, bien entendu, aussi.
Pascal Piche. En ce qui concerne la mort, ça fait 300 000 ans que les hommes s'interrogent, et pas que notre espèce, sur cette question de la finalité. Et je crois que, évidemment, vous avez cité Francis Bacon tout à l'heure, On confond prolonger la vie et mieux vivre jusqu'à la fin de sa vie avec une espèce de désir d'éviter la mort. Il y a une confusion entre les deux qui est quand même assez redoutable. Et d'un seul coup, effectivement, il faudra bien se rendre compte, quand je vois moi, des extrapolations qui disent qu'en moyenne, on va vivre 120 ans, c'est une incompréhension totale de ce qu'est la biologie et la nature des espèces. Et il est très clair que je suis assez consterné de voir comme vous le disiez, la révolution darwinienne, c'est cette blessure narcissique, c'est Freud qui avait sorti cela. Et Freud n'avait pas vu l'histoire de la temporalité, d'ailleurs. Il avait vu Galilée, il avait vu Darwin, il n'avait pas vu la révolution entre les deux, c'est Buffon, oui, sur la temporalité. Et ça, effectivement, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on accepte un passé qui aboutit vers l'homme, mais on n'a pas du tout la capacité à accepter un futur sans l'homme. Et ça, c'est extrêmement difficile. Parce qu'entre les deux, il y a la mort, évidemment. Notre espèce mourra. Et ça, c'est extrêmement complexe. L'autre chose est que, trop souvent aussi, il y a une confusion entre les domaines de l'ingénierie et le domaine des sciences et des sciences fondamentales. Alors bien sûr, c'est lié. Hein, je veux dire, les frontières ne sont pas étanches, loin de là. Mais lorsqu'on voit les difficultés qui ont émergé ces dernières années, par exemple l'histoire de la vache folle, jamais un biologiste évolutionniste n'aurait eu l'idée complètement dingue de donner des protéines animales à des vaches. Jamais. C'est un truc d'ingénieur, ça. Une protéine, c'est une protéine pour eux. Donc vous voyez que là, on a affaire, avec des conditions productivistes complètement hallucinantes, à une confusion qui revient sur la science. Les OGM, tout à l'heure, Étienne en a parlé. Il n'y a pas de débat scientifique sur les OGM. Et là, on touche à quelque chose que vous disiez à propos d'Andjonas, et c'est évoqué par Bruno Latour tout à l'heure aussi, c'est-à-dire, peut-on toucher à la nature? En fait, les agriculteurs ont toujours touché à la nature. Là, évidemment, on va toucher à quelque chose, c'est comme les nanotechnologies d'ailleurs, on va encore en dessous, on va vers du plus fondamental. Et là, on retrouve les mêmes interrogations, hein. Le problème des manipulations génétiques et les nanotechnologies, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire, on l'a sur quelque chose, les molécules, on perçoit encore, quoi. Mais là, en dessous, on ne sait pas trop ce que c'est, et on a l'impression qu'on joue au démiurge, bien évidemment, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais, très clairement, puisqu'on parle du futur, moi, en tant qu'évolutionniste, je veux dire une chose. Le futur est contraint, qu'on le veuille ou non. Même cette idée de contingence que vous évoquiez, qui n'est pas facile à accepter par moment. Très clairement, c'est la variabilité actuelle de ce que nous sommes, en tant qu'être biologique, mais aussi en tant que société et capable de produire des connaissances et des techniques autres. Je veux dire, notre futur se jouera sur cette diversité. Et comme le disait Étienne après, ben voilà, ça sera une affaire de politique, évidemment, où tout le monde intervient. Et très clairement, je suis très inquiet du fait, et tous mes collègues aussi, de la perte de ces programmes sur les recherches fondamentales. Parce qu'on sait très bien faire dans la culture occidentale. L'Europe continentale est très lamarckienne, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée qu'on est capable de perfectionner activement une filière qui existe déjà. Ça correspond à une grande culture d'ingénieurs. Donc ça marche très bien, on sait faire. On a d'excellentes écoles d'ingénieurs. Par contre, on a beaucoup de difficultés en Europe continentale, c'est de faire émerger de nouvelles filières. Et ça, on est plus sur un modèle plus darwinien, qui fonctionne beaucoup mieux dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à se poser la question de savoir, non pas à quoi ça va servir, mais simplement, on ne pose même pas cette question-là. Si on fait émerger quelque chose de vraiment radicalement nouveau par la recherche fondamentale, si ça ne rentre pas tout de suite dans un cadre qui pourrait permettre d'améliorer les choses telles qu'on les perçoit à un moment donné, eh bien, on va la mettre de côté. Et ça, c'est un vrai problème, parce que les vraies innovations viennent souvent de là. Donc, c'est vraiment une réelle difficulté. Et vous savez que c'est en train de changer, je l'espère. Xavier Darcos en a parlé hier. Nous étions très inquiets pour le programme du tronc commun de seconde qui se dessine, dans lequel, vous vous rendez compte, il y avait des mathématiques, la philosophie, bien sûr, l'histoire, mais il n'y avait pas de science fondamentale. Donc, vous vous rendez compte, comme si la science ne rentrait pas dans les connaissances fondamentales. Vous vous rendez compte, c'est l'entournement auquel on a affaire, c'est complètement hallucinant. Je ne fais que vous citer ce qui se passe actuellement. Alors, ça va changer, on l'espère, parce que tout le monde a réagi. Mais on voit bien qu'il y a énormément d'ambiguïtés qu'ont soulevé mes collègues et moi-même autour de ce qu'est la science, entre la technologie, ses attentes, l'innovation active qu'évoquait Étienne et l'innovation qui peut-être servira plus tard. Et puis ensuite, dans la formation des jeunes, au moment où on a des conflits, tout à l'heure, Étienne Klein parlait de Sarah Polin, qui confond les caribous, les dinosaures quand elle va à la chasse. Bon, ça nous fait rigoler ici. Mais vous savez que derrière cela, c'est toute une cabale extrêmement bien organisée, qui passe par la théorie de l'évolution, mais ce n'est pas la théorie de l'évolution qui est ciblée au bout du compte. Hein. Ça, c'est la première étape. Derrière, c'est nier, c'est vraiment nier toutes les sciences pour réinstaller des théocraties. Donc, vous savez, c'est extraordinaire. Hein. On n'aurait pas ce débat, il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé. On n'aurait pas imaginé que aujourd'hui, venant des États-Unis et maintenant en Europe, c'est très fort, nous aurions eu des forces de réaction aussi fondamentalistes et archaïques qui reviendraient contre les sciences. Et donc ça, je veux dire, on n'en a pas parlé, parce qu'on a beaucoup parlé du futur et de la science. Et moi, je commence à poser des questions, parce que dans le futur immédiat, même le présent, la science est menacée comme mode d'interrogation du monde. Et ça, ça me trouble énormément.
Une autre question ? Beaucoup de questions. Il va falloir essayer de répondre rapidement parce que beaucoup de doigts se lèvent.
J'ai remarqué qu'il y avait une attention et que vous preniez vraiment beaucoup au sérieux les transhumanistes. Ça me surprend un peu parce qu'on peut. Enfin, je ne sais pas si les autres gens dans la salle savent ce que c'est que le transhumanisme. On pourrait imaginer que ce sont une minorité d'allumés. Cependant, vous les prenez très au sérieux. J'aimerais bien savoir pourquoi et qu'on m'explique un petit peu plus.
Étienne Klein ?
Moi, j'ai fait un voyage en Californie dont je suis revenu traumatisé. Donc, non, il y en a quelques-uns, mais en fait, vous savez, les budgets énormes qui ont été mis sur les nanosciences, d'abord aux États-Unis et puis ensuite partout, puisqu'il faut suivre, viennent d'un gros rapport de la NSF. La National Science Foundation, qui a été écrite par plusieurs personnes, dont une qui se réclame transhumaniste. Et donc, c'est cet argument-là, dont je suis d'accord avec vous pour dire qu'il est en grande partie à ne pas prendre au sérieux, qui a quand même décidé les politiques à investir dans cette activité. Le rapport de la NSF promet la paix perpétuelle, la disparition de la frontière entre les langues, l'harmonie, le bien-être personnel, une longévité accrue pour tous, enfin des choses comme ça. Quoi. Donc, effectivement, ce sont des charlots, mais ils ont un pouvoir de conviction qui est sans doute augmenté par le fait que, et c'est un point qu'on n'a pas évoqué, nous sommes fatigués de la condition humaine. Et leur argument, pour certains d'entre eux, Jean-Michel Beignet va publier dans les semaines qui viennent un livre dans lequel il examine tous les ressorts rhétoriques des transhumanistes. Et il y a l'idée qu'après la Shoah, après Hiroshima, nous sommes fatigués de la condition humaine. Et que tout ce qui pourrait nous en sortir serait le bienvenu.
Une autre question peut-être, parce que je crois qu'il y en a eu beaucoup et ce serait dommage.
Je vais relier la question de madame qui demande qu'est-ce que vous pensez de l'expérience CERN ?
CERN.
Le CERN.
Le plus grand bien.
Alors, on va peut-être empêcher Étienne Klein de répondre, parce qu'il est trop en relation affective avec le CERN.
Ben, on l'inaugure demain.
Une vision objective.
On l'inaugure demain. Monsieur Fillon va l'inaugurer demain.
Voilà, malheureusement, dans un état qui n'était pas celui prévu au départ.
Mais il est en panne.
C'est vrai. Il est en panne. Donc en fait, on parle du LHC en disant CERN, voilà. Pour qu'on puisse bien comprendre. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait y répondre ? Qu'est-ce que vous attendez exactement ?
Moi, je ne parle pas bien le français, alors je me demandais qu'est-ce que vous en pensiez pour le futur. Est-ce que c'est dangereux ou pas ?
Ah, voilà, donc c'est plus précis. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une question sur les trous noirs qui ont à un moment
alors,
menacé.
Je peux répondre rapidement. D'abord, c'est une machine qui est énorme, fait 27 km de circonférence, et des protons à haute énergie qu'on fait entrer en collision. Et en fait, ce qu'on va résoudre comme question, c'est des petites questions bien posées qu'on se pose depuis une vingtaine d'années sans avoir eu les moyens de les trancher, sur l'origine de la masse des particules, sur la matière noire, des choses comme ça. Et on ne va pas aller au-delà. Et c'est là qu'on voit l'ambivalence du public. C'est que les gens nous demandent d'en dire plus. Et évidemment, on dit, on va comprendre l'origine de l'univers. Ce qui est une forme de salade. Évidemment, on ne va pas comprendre l'origine de l'univers. On va juste recréer dans le présent les conditions du passé, les conditions physiques de l'univers primordial. Mais on ne comprendra jamais d'où est né l'univers. Mais quand il s'agit de recherche fondamentale, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle du hype, c'est-à-dire de produire un discours qui va bien au-delà, un discours quasi publicitaire, qui va au-delà de ce que nous allons faire. Et s'il n'y avait pas eu l'histoire du trou noir qui menace d'engloutir la planète, il n'y aurait pas eu un seul journaliste le jour du démarrage de la machine. D'accord ? Donc, voilà, cette histoire du trou noir, elle a été non pas inventée par les physiciens, ça fait 10 ans qu'on se pose la question de savoir si des collisions de protons à haute énergie peuvent produire des mini-trous noirs. Et est-ce que ces mini-trous noirs sont dangereux ? Alors déjà, pour en produire, il faut qu'il y ait des dimensions supplémentaires d'espace-temps. Donc déjà, ça fait une condition très, très dure. Et en fait, il n'y a pas de danger. Je pourrais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de danger. Mais à partir du moment où vous dites « cette machine va créer des conditions physiques qu'on n'a jamais réalisées sur Terre », et on attend de la nouveauté, on attend des surprises, vous vous mettez dans une dialectique qui rend difficile l'argumentation vous permettant de dire « ça va bien se passer ».
Alors pour Gilbert Rotois, ça ne s'est pas déjà très bien passé parce qu'il crée une liaison dont je vais lui laisser la paternité parce que je préfère que ce soit lui qui l'exprime. Bon, vous ne voulez pas le dire, c'est dommage.
Oui, je disais à notre maître de cérémonie qu'au moment de l'expérience du CERN est apparu le gouffre financier, le trou noir. Dans
oui. Mais on n'a pas fait l'expérience, on n'a pas commencé, on n'a pas encore fait de collision.
C'est dire ce qu'on peut craindre.
C'est vrai qu'il coûte cher, les physiciens.
Mais non, voilà. le financement, la part française au financement du CERN, c'est un tiers de tapis par an. Le tapis étant cette unité qui fait office de quantum, qui est 480 millions d'euros.
C'est pas un chiffre, c'est pas là, très pratique à utiliser.
Moi, je trouve que c'est symbolique, ça permet de compter les choses. Un tapis, c'est 480 millions d'euros, et le LHC, c'est un tiers de tapis.
C'est une carpette. En fait, pour revenir sur cette crainte-là que vous avez évoquée, c'est une répétition parce que lors des recherches sur la fission nucléaire, on a émis les mêmes angoisses, à savoir qu'une fois mise en route, cette fission nucléaire pourrait ne pas s'arrêter et donc détruire la Terre entière.
Ben oui. Mais le fait que la Terre soit toujours là n'est pas la preuve qu'il n'y a pas de danger, puisqu'on n'a pas commencé les collisions. Et je connais beaucoup de gens à Genève qui ont quitté la ville le 10 septembre pour échapper à la destruction de la planète, comme si un petit déplacement dans l'espace pouvait protégés contre ce genre d'incident, et ils sont revenus rassurés le 10 au soir. Non, ça n'a pas explosé. Alors que ce qui est menaçant, c'est pas le fait d'avoir fait un tour de machine avec des protons comme ça a été le cas le 10 septembre, mais c'est de faire des vraies collisions haute énergie qui n'ont pas encore été faites. Et ça ne reprendra qu'en juin 2009.
Voilà, le temps de résoudre un petit problème électrique qui prouve qu'avant de recréer les conditions de l'origine de la planète, il y a quelques petits détails technologiques assez rudimentaires à régler.
C'est pas un fer à repasser.
Voilà. Une autre question.
Donc,
allez-y, ça va sûrement se mettre à marcher. Non, il faut appuyer sur le bouton.
Bonsoir. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Notamment, donc, je pense que toutes les personnes ici dans la salle sont d'accord qu'il y a une mésinformation sur la recherche scientifique aujourd'hui. Et donc, le problème des trous noirs, du LHC, tout ça. Donc oui, il n'y aurait pas une média, mais bon, voilà. Si on se tient un minimum au courant, on est aussi au courant que des trous noirs, ça ne se crée pas comme ça. Donc ma première question est cette mésinformation. Qu'est-ce que vous, en tant que scientifique, vous pensez bon de faire pour que le grand public soit peut-être plus facilement au courant? Après, la deuxième question est que moi je me suis pas mal renseignée autour du serpent cosmique et d'un auteur dont j'arrive pas du tout à me rappeler le nom, donc qui parle d'anthropologie, de l'ADN, de toute cette symbiose autour de la Terre. Et du fait qu'il ait été extrêmement isolé dans la communauté scientifique. Donc, comment vous, en tant que scientifique aussi, vous pourrez réussir à trouver des solutions contre cette division à l'intérieur même de la communauté scientifique. Et donc, parlant du serpent cosmique, j'ai lu un bouquin de science-fiction, Babylon AD. Le film était très très mauvais, je vous conseille le livre. Et il fait beaucoup référence à l'auteur du serpent cosmique. Donc, quel est votre point de vue, vous, en tant que scientifique, sur la science-fiction et du coup le rapport avec le futur ? Donc voilà.
Alors sur la science-fiction, peut-être Gilbert Autois, qui est lui-même auteur de science-fiction.
J'ai effectivement commis un livre de science-fiction spéculative, disons, il y a pas mal d'années déjà. Mais je ne suis pas un scientifique. La question s'adressait plutôt, enfin, assez explicitement aux scientifiques. La science-fiction, d'abord, la science-fiction est une histoire. Et il aurait peut-être été intéressant, dans le cadre de cette journée, effectivement, de réserver un exposé sur l'histoire de la science-fiction, parce que on aurait vu à quel point la représentation du futur dans la science-fiction change, évolue entre, disons, l'époque des pulps des années 20-30 à l'époque contemporaine. Non seulement change de contenu, bien sûr, je veux dire, l'image du futur change de contenu, mais change aussi de signe, enfin de valeur. De même que change l'image de la science et l'image des techniques en rapport, et l'image de la société, bien sûr, en rapport avec l'image du futur. Ce que je veux dire, c'est que une bonne partie de la science-fiction des années 30-40, mais encore 50-60, est devenue quasiment illisible parce que il n'y a rien de plus daté et de plus rapidement périmé que toute une série de représentations, de conceptions du futur ou de l'avenir. C'est vrai aussi que certains grands auteurs échappent à cette espèce d'obsolescence rapide, mais 80%, 90% de cet imaginaire vieillit assez vite. Donc ma réponse est que ça aurait peut-être été intéressant de consacrer effectivement un exposé thématique sur à l'histoire de la science-fiction, puisqu'on y trouve des représentations des sciences, des techniques, des sociétés et du futur en particulier, qui sont symptomatiques. Alors, de l'évolution de la société, de l'histoire et de la spéculation et de l'imagination des hommes à chaque période. On pourrait continuer, mais...
Sur le serpent cosmique, lequel je n'ai pas beaucoup d'informations, une réaction.
Non, il y a beaucoup de choses comme ça qui essayent de faire un syncrétisme entre toutes les données, depuis l'ADN jusqu'à toute la Terre, les communautés écologiques. Tout ça, effectivement, c'est sympathique, mais c'est pas l'occasion d'un ostracisme par rapport à tel ou tel scientifique. Un scientifique peut avoir son travail de laboratoire, sa vie professionnelle, et puis maintenant il peut se livrer à la science-fiction ou autre. C'est pas pour ça qu'il serait exclu. La réelle difficulté aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que il y a de telles règles pour évaluer les chercheurs, vous connaissez l'expression, hein, publish or perish. D'une certaine manière, il vaut mieux rester dans la pensée dominante. Si vous voulez publier, vous publiez sur le paradigme dominant. Aujourd'hui, Darwin n'existera pas. Enfin, il n'a jamais eu de poste, lui. Il va être tranquillement chez lui. Mais des gens comme Joliot-Curie, autre, c'est le petit-fils même de Joliot-Curie qui était au Collège de France, et disait, mon père a créé le CNRS. Aujourd'hui, il ne pourrait pas rentrer au CNRS. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est pour ça que j'aime bien les spéculations de science-fiction ou autre, parce que c'est sympathique, ça fait appel, ça mobilise de l'imaginaire, et en plus, on va puiser dans les connaissances scientifiques. Mais très clairement, on n'a plus beaucoup de place aujourd'hui dans la manière dont est réglée la vie des chercheurs pour certaines formes de spéculation, de théorie. Et alors des fois, évidemment, on n'aime pas trop ça quand ça va un petit peu trop loin, mais il faut faire la part des choses. Et chez nous, il y a des règles qui font que, très clairement, vous avez une formation, vous êtes jugé par vos pairs, il y a produire de nouvelles connaissances, et puis vous êtes jugé par vos pairs. Les plus critiques sur la science sont les scientifiques eux-mêmes. Ça, il faut le rappeler. Et moi, je suis plein dans ce débat sur les théories de l'évolution. Je veux dire, les gens qui ont fait le plus bouger les théories de l'évolution, on dit théorie darwinienne, mais elle a complètement changé, cette théorie, depuis 150 ans. Elle bouge tout le temps, cette théorie. Donc, nous sommes très critiques les uns par rapport aux autres. Alors ça, c'est à l'intérieur de notre communauté. Alors après, avec l'extérieur de la communauté scientifique, c'est un peu plus compliqué, en effet. On a ce genre de débat ce soir, où là, évidemment, à travers des fictions, à travers des récits comme ceux que vous évoquiez, Évidemment, ça séduit pas mal, c'est intéressant, c'est fascinant, c'est une invitation un petit peu poétique parfois à découvrir la variabilité, le champ des sciences, mais c'est pas un objet d'ostracisme. Donc, on le rejette pas. C'est-à-dire que c'est pas très utile pour la recherche scientifique, ce genre de choses, soyons très clairs. Mais c'est plutôt sympa comme exercice, exercice de fiction. Voilà.
Étienne Klein.
Sur la science-fiction, moi, je suis pas très amateur, j'ai lu beaucoup de science-fiction sur les voyages dans le temps, c'est la seule chose qui m'est vraiment intéressée. En fait, il y en a deux sortes. Il y a ceux qui extrapolent les tendances actuelles et essaient d'imaginer des mondes où les possibilités pressenties de la science se réalisent. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet. Puis il y en a d'autres qui sont au contraire en rupture avec la science, c'est-à-dire qui imaginent ce que la science décrète impossible. Bon, c'est deux statuts complètement différents, me semble-t-il. Maintenant, sur les règles dont tu parles. Bon, on peut toujours critiquer les règles, mais il faut comparer l'existence de ces règles et les contraintes qu'elles impliquent à l'absence de règles. Or, la science, elle se définit justement parce qu'elle a défini une ou plusieurs méthodologies qui ont fait son efficacité. Et je pense que, dans mon domaine en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de pistes théoriques qui sont avancées, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le lâcher, c'est pour faire le ménage dans les idées, il y a trop d'idées. Toutes les idées ne peuvent pas être bonnes, donc on attend une machine qui en fasse mourir certaines. Le lâcher, c'est cette machine qui va faire mourir des idées. Et je ne sens pas ce poids qui freinerait la créativité des chercheurs. Au contraire, il y en a trop. Et d'ailleurs, on reçoit tous, je parle des physiciens, des documents chaque semaine, chaque jour d'ingénieurs à la retraite qui ont une théorie nouvelle ou qui prétendent que la relativité est fausse, etc. Et heureusement qu'on a des règles qui nous protègent de tous ces papiers. Et enfin, sur le LHC, vous dites on fait pas d'information. Je pense que depuis 20 ans, les chercheurs font un travail de pédagogie unique dans l'histoire des idées. Alors, Einstein a vulgarisé, Langevin a vulgarisé. Après, il y a eu la bombe atomique. Et après la guerre, on a cessé de vulgariser. Et puis, on a repris. Le premier qui a montré qu'on pouvait expliquer de la science compliquée, c'est Hubert Reeves. Pour voir comment la communauté scientifique l'a traité. Et puis aujourd'hui, il y a des livres de science partout. Si vous voulez en savoir plus sur le lâcher, je vous donne d'excellentes références. Le problème, c'est que ça n'intéresse pas grand monde, comme je l'ai dit. Et donc, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de faire la part entre le droit de savoir que nous revendiquons, et c'est normal dans une démocratie. Le droit de savoir doit être un droit fondamental. Simplement, pour comprendre ces choses-là, il suffit pas de balancer des messages. Ça n'est compréhensible que si vous-même vous faites une partie du chemin. Et ça va être chronophage, ça va être compliqué. Et du coup, moi j'insiste plutôt sur le désir de connaître plutôt que sur le droit de savoir. Le droit de savoir, il est acquis. Et il faut maintenant arriver à engendrer des mécanismes dans la société pour que ce droit de savoir devienne un désir de connaître.
Juste un mot pour compléter, si je peux me permettre, sur l'aspect communication en matière de science. Je rejoins tout à fait ce que dit Étienne Klein. Si personne n'achète les journaux scientifiques, si personne ne lit les pages science des journaux, des quotidiens, si personne n'écoute les émissions scientifiques à la radio ou à la télévision, eh bien, il n'y en aura plus, tout simplement. Et c'est un peu ce qui est en train de se produire. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une mésinformation quand les systèmes d'information actuels, auxquels évidemment s'ajoutent tous les livres scientifiques, qui sont très nombreux, eh bien, quand tous ces systèmes de communication vers le grand public existent et qu'ils ont plutôt tendance à être victimes du public que de quiconque autre, scientifique compris, bien entendu. Les scientifiques collaborent à tous ces médias. Et donc, il ne manque que le public, souvent, pour que ces médias puissent se développer encore plus ou ne serait-ce que être pérennisés dans leur existence.
Mais ça marche pas si mal que ça. Par contre, ce qui est troublant lorsque vous allez dans des salons du livre, pas à Paris, parce que c'est un peu différent des autres, vous voyez les organisateurs et vous constatez qu'il n'y a quasiment pas du tout de stand pour les livres scientifiques. Alors je leur pose la question, ah bon, ça peut être là? Donc c'est pas du tout une volonté d'écarter, c'est qu'ils n'y pensent pas.
Parce que, ce fait, il y a un salon du livre scientifique.
Ben, alors, il y en a un, bien sûr. Mais pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est très curieux parce que on a dans notre système scolaire, et ça c'est assez français d'ailleurs, d'un côté, vous êtes littéraire ou scientifique. Et ça, on le paye encore. Et très clairement, Étienne est là, moi-même, je ne sais pas trop quelle est l'œuvre de M. Gilbert Autois, mais en tant que scientifique en tout cas, il faut bien comprendre qu'aller vers les publics, quand au bout de 10 ans, vous apercevez qu'il y a toujours les mêmes choses qui ne passent pas, indépendamment de l'avancée des connaissances, ben vous vous dites, ou je suis un mauvais communicateur, mais vous vous posez d'autres questions aussi, mais qu'est-ce qui ne passe pas? Et d'un seul coup, ça vous oblige à intervenir, comme en ce moment, sur les théories de l'évolution, sur des questions d'épistémologie, de philosophie. Alors moi, je suis très médiocre là-dessus, hein, je n'ai pas l'excellence d'Étienne Klein à cet égard, mais... Non, parce que j'étais désagréable au début. Et très clairement, une des difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de propositions. Vous avez raison de le rappeler, Michel. Hein, il y a beaucoup de propositions. Hein, il y a beaucoup de livres qui sont publiés. On n'arrive pas à faire passer les émissions de télévision en première partie de soirée. Mais ça, c'est à cause des programmateurs. On n'y arrive pas, alors que le public est toujours présent. On peut critiquer l'Odyssée de l'espèce. Mais le public était là. Et il y a eu d'autres émissions qui ont eu beaucoup de succès. Donc, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas que nous. Mais il est vrai, Étienne l'a dit, je le répète, lorsque vous commencez devant les publics, à passer à la radio, à la télévision, etc., ben c'est, voilà, nous sommes une communauté humaine aussi. Ça ne plaît pas toujours facilement au sein de la communauté.
Mais ce n'est pas ça le problème.
Mais ce n'est pas ça le problème. Je veux dire, la plupart du temps, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc là, ce sont des petites parano qui traînent. Mais en général, globalement, les indices sont bons. Quoi. Je veux dire, les relations sont bonnes. Et quand on va en province, c'est des centaines de personnes. Hein, donc, mais les politiques aimeraient bien avoir autant de gens lorsque nous venons. Donc, vous voyez, c'est ça qui est curieux, c'est qu'il y a de bons éléments. Mais voilà, on a l'impression que pourtant on n'a pas la place. Vous avez l'impression qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez bien perçu. Ouais, c'est voilà, un petit paradoxe.
Une autre question.
Moi, j'avais juste une réflexion parce que je travaille avec des enfants et des adolescents depuis beaucoup d'années. Et alors, je suis très étonnée d'entendre ce que vous dites parce que d'abord, les gamins adorent la préhistoire, ils adorent la science. C'est vraiment quasiment unanime. Je crois qu'il n'y a pas un gamin que je vois qui me parle des dinosaures, qui les dessine, qui les collectionne. Bon. Donc il y a quand même un truc qui est étrange parce que bon, les maths, c'est vrai que ça ne les branche pas. Il faut reconnaître que c'est un obstacle peut-être pour aller plus vers une évolution scientifique. Mais enfin, en tout cas, ils adorent la science. Ils aiment bien l'éducation civique. Là aussi, c'est quand même un truc assez intéressant parce que on dit les gens sont pas politisés. Or, il y a quand même un problème, quoi. Et ça, ça a rien à voir avec le milieu social. Hein. Moi, je vois des gamins de toutes les origines sociales et c'est vraiment un truc qui les branche. Ils aiment ça. Alors, il y a quand même un truc étrange. Quoi.
Qu'est-ce qui vous gêne par rapport à ce qui
est dit? Non, mais parce que là, on vient de dire que le discours ne passe pas. Moi, j'entends les gamins. Je travaille en province, les gamins, ils vont au Palais de la Découverte, à la Villette. Hein, ils reviennent. C'est un des premiers trucs qu'ils vont faire. C'est ça, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose. Je sais pas. Ça serait quand même intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ça passe pas le cap. Bon, moi, je vois des gamins plutôt, on va dire, primaire, collège, voilà. Hein. Mais je peux dire vraiment, ça les branche, quoi. Ça les intéresse. Et la science-fiction les intéresse. L'informatique aussi, mais les sciences, ça leur plaît.
Voilà. Oui, alors, moi, je vais répondre à une chose. Vous arrivez avec Étienne Klein. Nous étions à Marseille, je m'en rappelle très bien, pour une belle manifestation organisée par des écoles de commerce et de gestion, etc. Et tous ces jeunes avaient fait un travail d'organisation absolument remarquable, de préparation absolument remarquable, et tous disaient combien ils aimaient les sciences. Donc, je ne change pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, Étienne leur pose la question, pardon de parler à ta place, Étienne, mais pourquoi vous n'avez pas fait de carrière scientifique. Et c'est là que ça devient complètement étrange. Moi, j'étais dans les années 80 aux États-Unis. Je vous assure, j'ai vu les laboratoires scientifiques des grandes universités américaines petit à petit perdre les étudiants qui étaient dans les domaines, qui sortaient de, enfin, les Américains de souche, on va dire, on ne sait pas ce que c'est qu'un Américain de souche, mais enfin, traditionnellement, les WASP, etc. Et on a vu vraiment rapidement arriver les Chinois, les Indiens, etc. Il y a eu au cours des années 80, une désaffection non pas de l'intérêt pour la science, mais en termes d'enjeux de vie et de carrière. Enfin, en tout cas, je suis pas sociologue des sciences, hein, mais vraiment, c'est très clair. Et on assiste à la même chose dans notre pays. Alors qu'en fait, nous, on vit bien, on n'a pas l'air trop traumatisé, on n'a pas l'air trop frustré, ni quoi que ce soit. Et c'est ça, madame, ce paradoxe qui est curieux, c'est qu'effectivement, il y a le large public est aussi intéressé. Mais d'un seul coup, ça ne représente plus du tout un schéma de vie. C'est assez troublant. Enfin, beaucoup moins, en tout cas. Beaucoup moins. Enfin, c'est ce qu'on constate.
Une dernière question, car le temps tourne.
Oui, bonsoir. Vous avez bien souligné que nos économies vivent sous la contrainte quotidienne de l'innovation pour créer très rapidement de nouveaux produits, de nouveaux services partout sur la planète. D'autre part, vous avez aussi souligné que la planète aujourd'hui est dans une situation peut-être de renversement, c'est-à-dire que des bouleversements sensibles se font jour. Donc j'ai deux questions. La première, est-ce que vous pensez justement que les défis auxquels la science est confrontée ne sont-ils pas plus importants que ce qu'ils ont été dans les siècles passés, que ce soit pour la production d'énergie ou d'autres domaines? Et puis la deuxième question, est-ce qu'une priorité de la science ne doit-elle pas être d'accompagner la science justement de manière, non pas d'une manière éthique, mais pour que tous ces produits, tous ces services que l'on produit chaque jour soient compatibles avec la survie de l'espèce?
Étienne, vous demandez à la science de sauver le monde, en quelque sorte. Bah, accompagner son salut. C'est un peu la même chose. Moi, votre question est intéressante, mais j'essaierai de séparer les choses. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de la coupure galiléenne. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une nature que nous pouvons comprendre, et puis il y a nous. Cette coupure, elle a permis à la science de devenir efficace. C'est parce que nous avons trouvé des lois physiques que nous avons compris l'histoire de l'univers, son âge, son évolution, etc. Et au motif que cette coupure a aussi engendré des dégâts écologiques, qu'il ne faut que commencer, la crainte que j'ai, c'est qu'on liquide les connaissances que la coupure nous a permis d'obtenir. Et moi, je pense que, comme je le disais à Michel tout à l'heure, il ne faut pas jeter le bébé scientifique avec l'eau du bain écologique. C'est-à-dire, il faut repenser notre lien à la nature, mais sans remettre en cause les résultats incontestables que la séparation galiléenne nous a permis d'obtenir. Alors maintenant, sur l'énergie, là, vous avez raison, mais je pense que la meilleure solution, c'est de... Et je pense qu'il n'y en aura pas d'autre, de toute façon, c'est de consommer moins d'énergie. C'est sûr. Je ne pense pas qu'on trouvera une alternative au pétrole. En tout cas, pas pour les moyens de locomotion. Pour l'électricité, peut-être que du nucléaire ou de la fusion à terme pourrait donner quelques moyens de subsistance pour le long terme. Mais je ne vois pas d'équivalent au pétrole. On parle beaucoup de la pile à combustible, qu'on présente comme l'équivalent du pétrole, en oubliant juste un détail, c'est que dans la pile à combustible, il faut injecter dans cette pile de l'oxygène moléculaire qui existe en abondance dans l'atmosphère et puis de l'hydrogène moléculaire qui n'existe pas sur Terre. Donc c'est pas le pétrole, il faut le fabriquer, l'hydrogène. Et pour le fabriquer, il faut dépenser beaucoup d'énergie, soit de l'énergie qui va libérer des gaz à effet de serre si on fait du craquage d'hydrocarbures, soit on fait l'électrolyse de l'eau, enfin l'inverse de l'électrolyse de l'eau. Et ça demande du courant électrique.
Sachant que le courant électrique est exactement dans la même situation.
Et un petit point simplement. Tout à l'heure, c'était dit pour les nanotechnologies, mais vous savez, un des protagonistes des OGM, je ne vais pas citer, une de leurs promesses, c'était de dire, de toute façon, on va sauver la faim, régler le problème de la faim dans l'humanité. Non. D'abord, sur les OGM, il y en a qui fonctionnent et il y en a qui ne fonctionnent pas du tout et qui posent de réels problèmes. Et l'autre chose, c'est qu'en effet, le risque est absolument effrayant. Si vous attendez d'une innovation scientifique et technologique de sauver la faim dans le monde, c'est-à-dire, quelle que soit la qualité, la potentialité de cette innovation qu'on peut espérer formidable, ça ne changera rien dans les problèmes, comme l'a dit Étienne, d'inégalité, d'égoïsme, ou autres. Ben, regardez ce qui se passe actuellement. Hein. On trouve, on en est à plus de 3 000 milliards sur l'Europe et les États-Unis pour sauver les banques. Et on a du mal à trouver 30 millions pour la faim dans le monde. Donc, c'est plus un problème scientifique. Là. Donc, on ne peut pas demander les scientifiques de régler ça. Quoi.
Juste un mot de Gilbert Autois pour conclure, et je crois qu'on va s'arrêter là.
Je ne sais pas si je vais conclure, mais simplement, j'aurais bien rebondi sur la dernière intervention qui parlait d'accompagner la science et les techniques. Seulement, l'accompagnement auquel je songe, vous n'en voulez pas, enfin, un intervenant ne semble pas en vouloir, c'est l'accompagnement de type éthique. Et ce type d'accompagnement se fait, du moins jusqu'à un certain point, dans les comités d'éthique et les comités de bioéthique, par exemple. Il y a une discussion, souvent même en aval de la recherche, plutôt en amont de la recherche et pas seulement en aval des applications, lorsque les recherches ont abouti. Donc il y a un accompagnement des sciences et des techniques qui a lieu jusqu'à un certain point, en tout cas en ce qui concerne la biomédecine et jusqu'à un certain point la biotechnologie. Bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est tout de même, me semble-t-il, important et jusqu'à un certain point éclairant. Enfin, je crois que c'est une problématique d'accompagnement des sciences et techniques qui est importante. Et peut-être faudrait-il songer à un accompagnement politique aussi des technosciences. Enfin bon, je reste là.
Merci à tous les trois. Merci à vous tous donc, d'avoir participé à ce débat qui, je crois, termine la journée. Voilà. Donc,